Bonsoir. Deux sujets sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. D'abord, divergence des vues entre les syndicats des enseignants. Autour du 8 septembre prochain, date de la rentrée scolaire, la synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables, tandis que le CIECO appelle les enseignants à reprendre les cours le lundi prochain. Ensuite, clôture le week-end dernier à Goma de l'opération de repérage des bornes frontières entre la RDC et le Rwanda. Il reste à planifier l'opération similaire pour les frontières lacustres sur le lac Kivu. Voilà les deux thèmes principaux de cette émission que je vais commenter avec trois confrères. D'abord, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa. Diana, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Baba Isaac Kalonji, analyste indépendant, il est basé en Bujima et au Kasai Oriental. Baba Isaac, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission. Rentrée scolaire sur fond de divergences entre syndicats des enseignants et l'opération de bornage frontière entre la RDC et le Rwanda. Voyons comment la presse kinoise a traité ces sujets avec vous, Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la divergence des vues entre les syndicats des enseignants autour du 8 septembre prochain, date de la rentrée scolaire. On peut lire sur www.radiocapi.net divergence des vues entre syndicats des enseignants sur la rentrée scolaire 2014-2015. Tous les syndicats des enseignants ne sont pas d'accord sur la rentrée scolaire fixée au 8 septembre en RDC. La synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables, entre autres l'application des nouveaux barèmes salariés. De son côté, le syndicat des enseignants du Congo, CIECO, appelle ses affiliés à reprendre les cours à cette date en attendant la concrétisation des promesses du gouvernement au sujet de l'augmentation des salaires d'ici le mois d'octobre. Rentrée scolaire 2014-2015, les enseignants affiliés au CIECO reprennent le travail dès ce lundi, peut-on lire dans le quotidien Le Potentiel. Quittons l'enseignement pour parler de la démarcation de la frontière entre la RDC et le Rwanda. La tempête de Tropique informe que la commission mixte constituée d'experts congolais et rwandais chargée de mener l'opération d'identification des frontières communes entre les deux pays a identifié 22 bornes à la frontière terrestre des deux pays. Il reste maintenant l'identification de la frontière lacustre au niveau du lac Kivu. Le journal semble s'inquiéter de remarquer que la commission devra présenter son rapport le 15 septembre lors d'une séance de validation à Kigali pendant que les députés et sénateurs congolais effectueront leur entrée parlementaire. D'où les titres RDC-Rwanda, les frontières en discussion sans le Parlement congolais. Le quotidien soupçonne Kigali de vouloir manœuvrer pour s'emparer d'une partie du territoire congolais au cours de cette opération. Le Phare emprunte également la même grille de lecture, critique et accuse la commission mixte de mépriser le Parlement congolais. Quoi, les membres de la commission mixte RDC-Rwanda ont-ils choisi Kigali pour procéder à la validation des conclusions des travaux de démarcation des frontières communes? Pourquoi ont-ils retenu la date du 15 septembre prochain qui tombe comme par hasard et par enchantement sur le jour prévu pour la rentrée parlementaire à Kinshasa, s'interroge le journal, soulignant que les Congolais soupçonnent un complot contre les intérêts majeurs de la nation. L'avenir indique que concernant les frontières terrestres, toutes les parties se sont facilement mises d'accord en se basant sur la carte coloniale dressée en 1911 entre la Belgique, premier colonisateur du Congo et l'Allemagne, le second colonisateur du Rwanda. La question que se pose maintenant le quotidien est de savoir si la reconnaissance officielle des parts et d'autres de ces bornes frontières suffira pour établir la confiance entre les deux pays.
Merci Kéline Kouté. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa. Parmi les autres sujets d'actualité, commençons par rendre hommage au général Lucien Bauma.
Oui, tout à fait. Le stand de ceux qui ont démenti la nouvelle selon laquelle le Congo n'aurait pas de soldats, n'aurait pas d'armée. Il avait suffi d'un peu de discipline, d'une bonne organisation, d'extirpation de l'armée, de quelques traîtres qui, au lendemain de chaque plan, informaient Kagame et Museveni pour qu'on démontre que la RDC a une armée avec des généraux dignes de ce nom. Malheureusement, le grand héros de la dernière guerre contre le M23, on les perd presque de la même manière. Et cette façon-là nous étonne. On peut malheureusement, si on avait dit, bon, ces gens, après avoir fait ce qu'ils ont fait au Rwanda et à l'Ouganda, qu'on le retire, on ramène à Kinshasa, il y aurait déjà pour dire, ah, mais pourquoi on les a retirés? Eh bien, comme si ces gens-là n'avaient pas une vie, n'étaient pas à préserver, lorsqu'on sait que ce qu'ils ont fait à Kagame et à Museveni, en défaisant de cette manière-là le M23, ce pays-là ne le pardonnera jamais.
Bref commentaire également, Joachim Diana, sur le feuilleton Startime, en règle, non en règle, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben moi, je pense que lorsqu'on traite des affaires de l'État, on doit se débarrasser de ses passions personnelles. Lorsque vous êtes ministre, vous êtes un ancien journaliste, vous l'êtes encore, vous êtes éditeur, vous avez des problèmes avec d'autres confrères, mais résolvez ce problème-là dans le cadre de la profession. Mais maintenant, on constate qu'il y a un ministre, le ministre des médias, qui à l'époque a presque avalisé, parce que c'était dans ce droit à l'époque, avalisé la collaboration entre Télé7 et Startime. Et qu'aujourd'hui, ça devienne un problème. Pas, on ne le traite pas de la façon qu'on peut traiter, mais avec un acharnement qui sent la haine, qui sent l'intérêt, et alors ça devient un délit d'initié. Ce que le ministre de PT est en train de faire, ce n'est pas normal lorsqu'il s'agit surtout d'un dossier dans lequel se trouve des confrères.
Daniel Safou, vous êtes éditorialiste du journal Point Sa, en plus un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Également, un mot sur la disparition du général Bahouma et l'affaire Star Time.
Mais ça fait mal dans la mesure où tous ceux qui ont pu contrecarrer Kagame, Museveni sont victimes. Ils tous meurent de la même manière. On perd, n'est-ce pas, des symboles. On construit une nation avec la symbolique. Le général Bahouma constitue pratiquement une des symboliques du pays. Où les jeunes qui s'intègrent à l'armée, où les jeunes qui sont dans l'armée, peuvent, n'est-ce pas, les situer comme étant une référence, un modèle. N'oublie pas que nous avons un pays où nous avons perdu des modèles. Notamment, quand je fais allusion à la symbolique, une nation se conçut par la symbolique, une nation se conçut par des modèles. Lorsqu'on vous est, on vous extirpe des modèles, lorsqu'on vous extirpe des références pour une jeunesse, je crois que c'est dangereux. C'est un héros, on n'oubliera jamais le général. À chaque fois qu'on va se référer, n'est-ce pas, à l'histoire, l'M23, tout ce qu'on a connu avec le Rwanda, je crois qu'il reste gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Mais ce qui est regrettable, nous devions, les pays doivent apprendre à protéger tout ce qui se distingue pendant des moments forts. Notamment quand le pays est agressé. Ces gens-là, après avoir gagné leur victoire, ils doivent être conservés d'une manière ou d'une autre. Et on ne doit pas laisser ces gens-là de cette manière. Mais nous nous posons la question, pourquoi nous sommes en train de perdre tous nos héros? C'est la question fondamentale. Et ce sont des signes indiens, ou c'est le bonheur qui se pointe à l'horizon, ou je ne sais pas. Mais tout ce que nous savons, nous disons, cet homme, on n'oubliera jamais, il est lié, n'est-ce pas, à l'histoire de la guerre qu'on a connue avec les M23.
Baba Isaac Kalonji, vous êtes analyste indépendant basé à Mbujimayi au Kasaï oriental. Quelle est l'actualité là où vous vous trouvez?
D'abord, le général Bahouma, je suis très content que le frère est passé en tête de lui. Je suis peiné de constater que les victoires obtenues par Mamadou Ndala et Bahouma.
Baba Isaac, qu'est-ce que vous pouvez bouger un peu? On vous capte très mal.
Je suis peiné de voir que les héros de notre pays tombent l'arme en main.
En tout cas, Baba Isaac,
oui?
Voilà, essayez encore de bouger un peu. La qualité de votre ligne tend à se détériorer. On vous capte un peu difficilement. Si c'est possible, bougez un peu.
Ok, j'ai bougé.
Alors, allez-y, je vous en prie.
Je rends hommage à Ojan Bahouma. À son ex-commandant second, Mamadou Ndala, je suis concerné moi-même, parce qu'il fut mon commandant de 5e région de l'Institut Mbujima, toute la sécurité de la province, et je rends hommage aussi à sa famille de l'Ontario. Mais concernant l'actualité ici chez nous, c'est l'eau courante qui font énormément et gravement défaut. Les femmes circulent avec bassin sur la tête, les filles sont même violées pour aller chercher de l'eau à distance, aux rivières. Alors c'est pratiquement une catastrophe sociale. Je ne sais pas comment on peut trouver une solution à ce problème, étant donné que la régie des eaux et la SNES sont nationales. et la MIBA à 80% national, avec comme actionnaire l'État congolais, avec notre gouvernement, doit absolument faire tout pour que le courant revienne, pour que le courant pousse l'eau à venir sur les robinets, que les femmes puissent être servies à hommes. C'est difficile maintenant, présentement, et avec l'obscurité de la ville, l'insécurité aussi, fait un pas.
Merci.
C'est l'actualité. Mais la grande actualité dans la province, c'est le stade. Le stade en construction avec les dimensions internationales, c'est un patrimoine commun où tout le monde s'est impliqué, y compris l'opposition, y compris Merci. Les églises, y compris les civils. Tout le monde s'est impliqué pour que le stade soit ce qu'il est aujourd'hui, un stade que vous verrez plus tard.
Merci, Baba Isaac.
Que vous, l'autorité provinciale, pour avoir initié ça, mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut terminer les travaux pour qu'on remette à la population un stade achevé totalement.
Merci, Baba Isaac Kalonji. Nous allons prendre notre premier thème de ce soir. La synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables pour une rentrée apaisée sur l'ensemble du territoire national. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée générale tenue jeudi dernier à Kinshasa, cette synergie demande au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de l'enseignant. Rachidi Modeste Kayombo, secrétaire général de la Centrale congolaise du travail CCT, est au micro de Jacques-Yves Molima.
L'année 2015 va être l'année de dignité, surtout que l'État congolais s'est engagé à devenir un État émergent. Le gouvernement ne doit pas jouer avec l'éducation, parce que c'est la mère de la patrie. Négliger l'éducation, ne pas y mettre des crédits suffisants, clochardiser les enseignants, ça on ne va plus accepter pour l'année 2015. Voilà pourquoi il n'y a pas de rentrée scolaire tant que le gouvernement n'aura pas dit clairement combien de crédits il met pour la rémunération des enseignants pour l'année 2015. Il s'agit ici d'éliminer toutes les extorsions qu'on fait vis-à-vis des parents. Donc, la démission du gouvernement, elle ne doit pas demeurer éternelle. Nous avons décidé qu'il n'y aura pas de rentrée tant que le gouvernement n'aura pas visiblement, avant de déposer son projet de budget à l'Assemblée nationale, montré qu'il y aura augmentation sensible des crédits pour la prise en charge d'un travail décent. Donc, l'enseignant congolais ne doit plus continuer à vivre dans la précarité.
Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, pour sa part, appelle ses affiliés à reprendre les cours le lundi 8 septembre 2014, jour de la rentrée scolaire. Son secrétaire général affirme que ce syndicat accorde au gouvernement un ultimatum jusqu'au 30 octobre pour qu'il respecte les engagements qu'il a pris en termes d'augmentation des salaires. On écoute Jean-Pierre Kimbuya.
L'Assemblée générale a invité, en tenant compte des avis des provinces, ici je cite, des responsables provinciaux d'ici ECO, parce qu'on a 13 provinces, l'avis de Kinshasa 3, mais aussi on est implanté dans plus de 66 territoires et provinces, donc de reprendre les travaux le lundi 8 septembre en attendant la concrétisation des promesses faites par le gouvernement en termes des majorations des salaires. Ça découle de la rencontre qu'on a eue les 5 août avec le ministre des PSP, madame la vice-ministre au budget, et le ministre délégué aux finances. Donc à partir du mois d'octobre, il y aura un début de rationalisation des salaires et des primes. Donc une enveloppe de 5 milliards va être allouée aux anciens des PSP. C'est ainsi que les anciens veulent vraiment tester la bonne foi du gouvernement. La ventilation, c'est entre 9 802 francs congolais pour l'huissier et 15 909.63 francs congolais pour le directeur. C'est pas assez, mais on veut tester la bonne foi du gouvernement. Mais en plus de cela, il faut que le gouvernement réponde à d'autres revendications. Dans les cas contraires, c'est-à-dire les non respect des promesses faites par le gouvernement par rapport à la majoration des salaires, mais aussi par rapport à d'autres revendications, et dans l'échéance au 30 octobre de cette année, pourrait hypothéquer sérieusement l'année scolaire 2014-2015.
Joachim Diana, une rentrée scolaire sur fond des divergences déjà au niveau des syndicats des enseignants, comment vous percevez cette rentrée scolaire?
D'abord, que les syndicats, que les enseignants s'agitent à la rentrée, ce n'est pas une première.
Ce n'est pas la première fois.
C'est devenu une coutume. Nous nous sommes toujours posé la question de savoir, est-ce impossible aux enseignants d'engager des discussions avec leur employeur au courant de l'année? Est-il dit qu'il faut seulement que ce problème soit posé sous forme de chantage, en prenant les parents et les enfants en otage? Vous dites, bah, nous prenons les otages, si vous ne payez pas, nous les tuons. Voilà, c'est exactement ce que les anciens, ce sont des terroristes d'une autre façon. Mais je suis un peu étonné que les syndicats, déjà au niveau d'eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à parler le même langage. le gouvernement, d'une part, va dire, bon, d'abord, on va en profiter parce que du moment où on sait qu'il y a les mêmes enseignants dans une même école, il y a les enseignants qui appartiennent à tel syndicat, il y en a d'autres qui sont affiliés à tel autre syndicat, on verra.
Ce sera la cacophonie.
Tout à fait, une rentrée à plusieurs vitesses, ça sera vraiment catastrophique, mais il y a aussi le gouvernement qui impose rentrée à l'école, la rentrée doit avoir lieu obligatoirement à telle date. Mais pendant ce temps, il n'y a que la seule décision que le gouvernement respecte. Quand le gouvernement dit aux écoles, les enfants doivent rentrer l'uniforme, les minerval que le parent ait le temps de payer. Non, de ce côté-là, les écoles n'écoutent pas. Ils ne suivent que la rentrée doit avoir lieu à telle date, rien de plus. Mais déjà, dans certaines écoles, on vous exige 200 dollars d'acompte. Pour un minerval, de combien ? Vous ne savez pas. Vous devez payer d'abord 200 dollars. Et si vous ne le payez pas, l'enfant ne va pas à l'école. Et la rentrée qu'on dit, il faut ça. J'ai écouté aujourd'hui, en venant ici dans la voiture, une émission à la radio catholique qui demande Nzambe, Simba Motema, au gouvernement, Sarbo. Mais Nzambe, qu'il touche aussi le cœur du cardinal. Parce que vous savez que c'est dans les écoles catholiques où les conditions.
Ou de manière générale, les écoles conventionnées.
Conventionnées où les conditions sont les plus dures. Ils ne peuvent pas prier Nzambe, Simba Motema, au gouvernement, faut. Mais c'est mon thème de tous ces gens-là qui ont la gestion des écoles, qu'ils comprennent que les parents ne sont pas tous fonctionnaires de l'État, même si l'État payait tous les fonctionnaires, tous les parents ne travaillent pas à l'État.
Daniel Safou, une rentrée sur fond de divergence. Joachim Diana parle des enseignants en termes de terroristes qui prennent les parents et les élèves en otage.
Que Dieu pardonne mon confrère de juger les enseignants terroristes, qu'ils soient pardonnés de ces péchés. Qu'ils soient pardonnés dans la mesure où le Congo, je crois que l'agent qui souffre et qui atteint un niveau de la souffrance assez élevé de nous tous, c'est l'enseignant.
Il n'a plus le choix.
C'est l'enseignant congolais. La discrimination salariale est beaucoup plus vécue, n'est-ce pas, dans le secteur de l'enseignement. C'est regrettable. C'est regrettable pourquoi ? Parce que c'est devenu une tradition, qu'on venait de dire, mon confrère Diane, que à chaque année, c'est une tradition. Les enseignants revendiquent, les gouvernements. C'est quoi, en fait, dans tout cela ? Les gouvernements démissionnaires. C'est l'absence de l'autorité de l'État. C'est quoi la mission d'un gouvernement ? Un gouvernement est appelé, n'est-ce pas, il fonctionne pour le bonheur, n'est-ce pas, de la population. Lorsqu'un gouvernement ne fonctionne plus, ne travaille plus pour le bonheur de la population, c'est un gouvernement qui doit démissionner. Sous autre siège, c'est un gouvernement démissionnaire. Et qui doit démissionner, il ne sait pas répondre, n'est-ce pas, aux exigences, n'est-ce pas, des enseignants. Un secteur aussi sensible, n'oublie pas l'avenir de ce pays, n'est-ce pas, fondé sur l'enseignement. Si nous sommes là, si nous analysons parce que nous avons été à l'école, mais lorsqu'on est tenté de construire les écoles, on tombe. On ne dirige pas un pays avec les mensonges. Un gouvernement qui vous dit qu'il a maîtrisé les cadres, n'est-ce pas, macroéconomiques, mais qui ne sait pas à mesure, qui n'est pas à mesure de répondre, n'est-ce pas, aux besoins des enseignants. Il fonctionne pour quel avenir ? Pour l'avenir de sa famille, de leur famille, ou pour l'avenir de l'État. En amont, le gouvernement est démissionnaire. En amont, il y a l'absence de l'autorité de l'État. L'État n'est pas à mesure de réduire, n'est-ce pas, la souffrance de ses concitoyens. Je crois qu'un gouvernement ou un État ne peut œuvrer que en cherchant, n'est-ce pas, le bonheur, n'est-ce pas, de sa population. Dis-moi un peu, est-ce que ce gouvernement cherche le bonheur des enseignants? Non. Les enseignants ont raison. Il y a un principe, n'est-ce pas, marxiste. Il faut agresser l'agresseur. Au moment où nous parlons, quel est l'agresseur, n'est-ce pas, qui agresse les enseignants? C'est le gouvernement qui agresse les enseignants. C'est l'État. Donc les enseignants doivent se saisir, doivent se mettre ensemble, n'est-ce pas, de tenir là où ils sont, qui disent « Niet, c'est la rentrée scolaire, on pourrait résoudre les problèmes. » S'il tombe,
mais ce ne sera pas la première fois, Daniel Safou.
Mais c'est ça. Il ne doit pas tomber dans l'irrationalité. Il doit tenir. C'est pourquoi je fais allusion, n'est-ce pas, au principe marxiste. Les enseignants, ils doivent saisir l'occasion, agresser, n'est-ce pas, l'agresseur. Merci. Leur agresseur est connu, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais. Merci. Qui est défaillant, d'ailleurs, face à leur situation.
Baba Isaac Kalonji, comment se prépare la rentrée scolaire à Mbujimayi et au Kassai Oriental, où vous vous trouvez?
Estimés confrères, je vous dis que c'est entre dire et faire et à la marge. La rentrée ne se fera pas en Mbujimayi pour beaucoup de raisons. Une province entité territoriale enclavée fortement, dont les secteurs vitaux ne vivent que difficilement, je ne vois pas comment la rentrée peut se faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, Le conseiller qui vient d'intervenir m'a beaucoup intéressé quand il dit que
Daniel
c'est
Safou.
Le gouvernement qui est responsable de tout ce qui peut arriver. Voilà comment. Est-ce que Mouli 1, 2 et 3 que vous avez vécu à Kinshasa, je ne suis pas à Kinshasa, c'est trois Mouli ont été exécutés. Ça, c'est un. Deuxièmement, concernant la situation des salariés enseignants du Congo et leurs syndicats. Ils n'ont pas été d'abord servis tels que prévus par Mouli 1, 2 et 3. Rien n'a été fait. Deuxièmement, le budget éducationnel de l'État, le budget national, est à 2%. Je n'ai jamais vu au monde la jeunesse lutter à pareille difficulté parce que ceux qui sont au pouvoir seront remplacés demain par ceux qui sont formés aujourd'hui. C'est le devenir du pays. Et on n'y tient pas compte. On peut affecter des crédits importants à d'autres secteurs, mais quand le secteur éducationnel n'est pas servi à temps, c'est-à-dire que le déficit est hypothétique. Troisièmement, comment pouvez-vous accepter aujourd'hui que les parents dont les enfants doivent aller à l'école sont tous presque pratiquement chômeurs, et les enseignants qui doivent donner cours à ces enfants ne sont pas suffisamment motivés et payés? Et vous voulez parler d'un secteur d'enseignement. Le développement d'un pays, selon les spécialistes, est défini comme la capacité d'un gouvernement d'accorder ou de faciliter un strict minimum total aux secteurs vitaux du pays. Est-ce que ce gouvernement est capable de donner un minimum vital à l'enseignement congolais à ce stade? Je crois non. Mais si c'est déjà au niveau national, ça n'arrive pas. Comment voulez-vous qu'au Gabon oriental, on parle de rentrée scolaire? Ça, c'est utopique.
Merci.
Donc, on trompe ceux à qui on peut continuer à tromper, pas nous autres. Moi, je ne suis pas de l'avis qu'il y aura rentrée scolaire.
Voilà, Joachim Diana, quelle solution faudrait-il apporter à la position des écoles conventionnées qui tiennent tête au gouvernement?
Oui, vous savez, il y a, je me souviens à l'époque, j'étais déjà grand, lorsque on avait et nationaliser toutes les écoles. C'était tout simplement ça, ce chantage que l'on faisait à l'État et que le régime Mobutu n'avait plus supporté et a repris toutes les écoles avant de le remettre sous forme d'école conventionnelle chez le concessionnaire. Parce que vous ne pouvez pas de la même façon dire nous allons faire ça parce que l'État est irresponsable et nous allons serrer les parents, nous allons faire ceci, vous devez payer $200 d'acompte, vous ne payez pas. Minerva, le tout s'achète à l'école.
200 d'ailleurs, c'est peut-être le minimum.
C'est le minimum qu'on demande. Mais alors, vous allez faire ça, vous faites ça à l'État? Non, faites ça aux parents. Si c'est pour dire que seront les parents pour qu'ils se révoltent, pour qu'il y ait une révolution dans cette école, le jour où il y en aura, je me souviens lorsqu'il y a eu pillage, il n'y avait ni messe, ni quoi, ni dans les cathédrales, ni dans les temples, ni dans tout ce qu'il y a. Donc, parce que lorsque vous créez les troubles, c'est toute la nation qui en souffre. Les pillages qui ont eu lieu en 92-93 ont fait qu'aujourd'hui qu'il y ait plus de chômeurs, que travailler chez nous devienne une exception, que le chômage est devenu la règle. Mais j'aimerais dire ceci, lorsque nous parlons de l'enseignement, c'est vrai que nous disons que c'est un secteur important, mais ce n'est pas parce que nous faisons des incantations politiciennes que le secteur de l'enseignement va s'améliorer. Aujourd'hui, on peut tout demander au gouvernement. Faire ceci, mais ce n'est pas parce que le gouvernement a stabilisé le cadre macroéconomique automatiquement les conditions des enseignants doivent s'améliorer. Non, ça c'est faire de la démagogie ou pousser les gens à croire à d'autres choses. Et tant que nous ferons ce discours-là, nous n'irons jamais vers l'avant. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ce qu'il faut, c'est que, avec le peu qu'il y a, qu'on puisse effectivement faire la justice distributive par rapport à ce qu'on a. Mais ce n'est pas par rapport à ce que nous rêvons. Vous savez, ce qui avait prévu Mboudi qui était prévu pendant la transition. Mboudi seul, vous payez seulement les enseignants, tous les fonctionnaires de l'État, vous les payez avec $250 tel que c'était prévu. Il fallait plus ou moins 6 milliards de dollars. Et le budget était de 900 000. Comment il pouvait payer Mboudi à l'époque-là? Il ne faut pas prendre ces histoires-là de politiciens.
Il ne faut pas rêver.
Tout à fait. Et il faut faire une analyse concrète. Il y a quelque chose qui arrive, mais il faut que
l'on tienne compte, que le gouvernement soit conséquent. Lorsqu'il a pris la mesure que les enfants rentrent sans uniforme, mais qu'il y veille, que les écoles attendent que le temps que le parent ait l'argent pour payer, mais que le gouvernement y veille, ce n'est pas seulement faire des décisions à l'air, entre-temps, les écoles maltraitent les parents.
Daniel Safou, pourrait-on mettre fin un jour à la prise en charge des parents?
Oui, c'est possible. C'est possible.
Comment, d'après vous?
Tout part de la responsabilité du gouvernement. Tout part de l'intelligence du gouvernement. Nous sommes un pays où les gens crient sur les toits, il n'y a pas l'argent. Un pays pour le, comme le Congo, lorsque vous avez des décideurs qui crient, il n'y a pas l'argent, ils sont limités. Ils ont un problème d'intelligence. Ils n'ont pas la capacité de créer des richesses. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc il y a un problème d'intelligence, il y a un problème de créativité, il y a un problème de responsabilité. Ça date de combien d'années? Qu'est-ce qu'on attendait, n'est-ce pas, de la FDEL? Qu'est-ce qu'on attendait de ces régimes qui soient réellement l'antithèse de Mobutu? Mais aujourd'hui, Mobutu se retrouve dans tout ce que nous faisons. Nous avons connu Mobutu qui bafouait l'enseignement. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, la tradition, c'est devenu une tradition. Chaque rentrée scolaire depuis l'époque de Mobutu, ça posait problème avec les enseignants. Mais on s'est dit, ces gens qui viennent, c'est AFDEL qui vient, avec ces nouveaux régimes, les choses vont changer. Ils sont restés dans les contextes dictatorial. C'est-à-dire, les gymnastiques qu'on a connues à l'époque de Mobutu sont restées les mêmes. Il n'y a pas antithèse. Ça ne peut changer que le jour où nous aurons un gouvernement responsable, un gouvernement soucié de changer les choses. Changer les choses au sens, n'est-ce pas, de trouver des solutions adéquates à la population. Un gouvernement a la mission, laquelle, celle, n'est-ce pas, de trouver des solutions adéquates à sa population. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de trouver des solutions, démissionnez. Je vous dis aujourd'hui, que représente, n'est-ce pas, l'enfant d'un militaire? Que représente l'enfant d'un policier? Aujourd'hui, il y a rentrée scolaire, je vous dis. Pour un soldat qui touche 68 000 francs, il sera en mesure, s'il a 4 ou 5 enfants, de préparer la rentrée scolaire. C'est diabolique même à un certain degré. C'est métaphysique. On se dit, comment on arrive aujourd'hui que les enseignants saisissent, n'est-ce pas, les ballons, la balle à son premier bond, qu'ils refusent la rentrée scolaire, qu'ils poussent, n'est-ce pas, le gouvernement à se ressaisir, à être responsable, qu'ils ne puissent pas céder. Nous le savons, lorsqu'on parle des syndicats, le gouvernement joue. Il y a des syndicalistes qui sont de la majorité, il y a des syndicalistes qui sont syndicalistes. Et nous savons comment le gouvernement fonctionne. Il corrompt un groupe de syndicalistes, et les syndicalistes non corrompus, ce sont ceux-là qui réclament qu'il n'y a pas rentrée scolaire. Mais nous Merci. Disons, nous aussi en tant que parents, nous ne voyons pas comment on va effectuer cette rentrée scolaire. Nous ne sommes pas encore à mesure, n'est-ce pas, de nous quitter devant nos devoirs. Avec tout ce que nous touchons, on n'est pas à mesure. Les sacs d'un enfant revient à combien? À 30 dollars ou à 25 dollars.
Merci.
Un parent touche combien pour... Il n'y a pas rentrée scolaire, à mon humble avis, selon les syndicalistes, rationnels et conscients.
Voilà, Baba Isaac Alongi, pour clôturer ce premier thème, que faut-il pour avoir une rentrée scolaire apaisée?
D'abord, revenez au budget de l'enseignement, c'est 2%, c'est exceptionnel pour toute l'Afrique. À l'Afrique du Nord, là-bas, on est à 9%, dans un budget national pour l'enseignement et l'éducation, et nous nous sommes à 2%, comprenez ça, retenez ça, chers confrères. Deuxièmement, ici maintenant, comme l'intervenant de tout à l'heure là, il dit qu'il y a les syndicalistes corrompus qui peuvent dire rentrons. Mais ce sont des traîtres, donc ce pays ne peut pas avancer avec pareil personnage. Et quand on va rentrer à l'école maintenant, présentement, avec ces conditions de vie qui sont pénibles, pensez-vous qu'il y aura enseignement? Quelle sera la hauteur de la formation de la jeunesse, le devenir du Congo de demain, avec un enseignant non payé ou payé maigrement, qui ne peut pas faire le travail normal, puisque toute structure dépendant de l'animateur, et chaque fin justifie les moyens.
Merci. Deuxième thème de ce soir, les 22 bornes marquant les frontières terrestres entre la RDC et le Rwanda, au niveau de la frontière terrestre entre Goma et Gisenyi, ont toutes été repérées. C'est le résultat de l'opération menée du 26 au 30 août dernier par la commission mixte d'experts congolais et rwandais. Selon le délégué du gouvernement provincial du Nord qui voue dans cette commission, il reste à planifier l'opération similaire pour les frontières lacustres sur le lac Kivu. Roger Rachidi Tumbula est
est au micro de Bernard Nyangi.
Nous avions des GPS qui nous donnaient exactement les référentiels par rapport aux coordonnées géographiques qui se trouvent sur le pétrole d'accord de 1911. Et que donc on identifiait toutes ces bornes-là. Il y en a qui ont été cassées, mais les vestiges étaient trouvés. Il y a des endroits où on a trouvé des amas de pierres. La borne 22 était retrouvée sur le mont Ehou, c'est vers Kibumba là-bas. Mais sur le lac, il suffira d'avoir quelques hors-bord avec les GPS. On peut retrouver les coordonnées géographiques. Mais il a été dit que c'est dans la séance prochaine de validation qui commence le 15 septembre à Kigali, où on va projeter la matérialisation de la frontière liquide, donc la frontière au niveau du lac. Le rapport que nous allons valider le 15 septembre, les chefs d'État vont décider. S'il y a des compénétrations, puisque sûrement il y en a eu, une partie où le Rwanda est entré au Congo, une partie où le Congo a glissé vers le Rwanda, etc. S'il y a des décisions politiques à prendre, ça appartient aux politiques. Ça, ce n'était pas le but de notre travail. Nous, on était des experts, des techniciens.
Daniel Safou, je rappelle que vous êtes éditorialiste du journal .sa et en plus un bi hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Comment vous analysez ce genre d'opération? Il semblerait déjà qu'au Rwanda, il y ait des médias qui réclameraient déjà un certain territoire comme leur appartement avant même que cette opération ne prenne fin.
C'est regrettable. C'est regrettable pour notre régime. C'est regrettable pour les actuels décideurs politiques. Ils ont une lourde responsabilité vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'ensemble des peuples congolais. Vous savez, mon confrère, les motivations premières du Rwanda, n'est-ce pas, pour s'aventurer en RDC, c'est quoi? C'est se faire une partie des terres. Le vrai problème du Congo-Rwanda, les guerres que nous connaissons, c'est lié au problème de la terre. La terre, c'est ça les problèmes qu'on a connus. Maintenant, nous nous posons la question, quelles sont les motivations, n'est-ce pas, qui animent les experts? Quelles sont les motivations? Nous avons d'un côté l'accord de Berlin. Cet accord a évolué. Et nous arrivons, n'est-ce pas, aux accords, n'est-ce pas, de 1911, où on a fixé définitivement, n'est-ce pas, des frontières, ça qui est problème. Mais qu'est-ce qui se passe? On a connu la Première République dans ce pays. On a connu la Deuxième République. Nous avons fait la Troisième République. Pourquoi seulement cette République, cette Troisième République, où le Rwanda pose le problème, n'est-ce pas, des frontières? Ça sent quelque chose. Ça sent quelque chose. Ça sent quoi? Les dangers et sur la tête, n'est-ce pas, les Kabila. Toute la population a les regards sur lui, vers lui. Le problème, quand vous lisez Colette Blackman dira, les Congo seraient déjà balkanisés. Mais chaque citoyen s'est réclamé du gouvernement central. Ça veut dire quoi? L'unité nationale. Cette unité nationale, cette motivation, n'est-ce pas, nationale, a toujours déjoué, n'est-ce pas, le projet machiavélique du Rwanda et des multinationales, qu'on se le dise. Le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut pas faire face à de tels projets. Ce sont des multinationales, n'est-ce pas, en connivence, n'est-ce pas, avec le Rwanda, qui cherche à tout prix, n'est-ce pas, à se faire une partie, n'est-ce pas, de la terre. Mais le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose à notre niveau. Quelle sera, n'est-ce pas, la réaction, n'est-ce pas, de nos décideurs? Quelle sera la réaction de ceux qui nous dirigent? Le peuple congolais, tous, comme un seul homme, sont en train de regarder Kabila avec deux yeux. Sont en train de regarder le gouvernement avec deux yeux. Ils vont-ils céder, n'est-ce pas, au chantage rwandais? Ils vont-ils céder une partie des terres? Ou ils vont rester fermes en tant que dirigeants, en tant que responsables, en tant qu'autorité?
Merci. Joachim Diana, vous êtes éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa. Cette opération n'est-elle pas nécessaire pour fixer véritablement les limites, enfin?
Mon frère, vous me voyez très peiné. Hein. Heureusement, ce n'est pas la télé. Mais vous savez, Daniel Safou a fait une analyse correcte quand il dit que le problème, c'est quand le Rwanda nous a fait la guerre et tout ceci, le problème, c'était le problème de frontières. Mais lorsque on appelle les experts pour déterminer cette frontière, il dit quelle est la motivation de ces experts. Mais quelle pouvait être encore la motivation sinon que de dire à chacun où s'arrête son territoire? Où commence le territoire du voisin? C'est tout à fait cela la motivation. Et puis, vous savez, ces frontières, ce n'est ni le Rwanda, ni la RDC qui les avaient fixées. Et les experts, dans le papier qu'on nous a lu tout à l'heure, vous savez, il n'y a pas... Ça ne s'est pas fait comme on le fait au village, ça c'est votre forêt qui commence ici, qui s'arrête là-bas. On a mis des bornes qu'on a retrouvées. Donc, on a utilisé la technologie moderne.
Tout à fait. Il y a les cartes, il y a
la GPRS,
où on situe, c'est quel parallèle, tout ça. Et vous pensez que les gens peuvent aller faire tout ça. Mais monsieur, si nous, déjà, à notre niveau intellectuel, nous ramenons tout ça au débat du village, ça ne va pas marcher. Nous risquons de jeter de l'huile, là, de l'essence et du feu quelque part, là où il n'y en a pas. Lorsqu'aujourd'hui on cherchait à tracer, à resituer la frontière, ce n'est pas situer faire une nouvelle frontière, tracer une nouvelle frontière, mais découvrir la frontière. C'est pourquoi on retrouve les bornes que les Belges et les Allemands avaient situées. Bon, on les a trouvées par terre, sur la frontière terrestre. Maintenant, il faut trouver les bornes qui sont là, sur le plan lacustre. S'il n'y en a pas, on va utiliser les GPRS. On ne sait pas, c'est sur les cartes, c'est bien déterminé. Moi, je ne vois pas là où il y a la peur. Là, on doit regarder.
Il ne faut pas dramatiser.
Non, c'est la dramatisation ici, c'est la politisation de tout. On politise tout, partout, on voit. Mais moi, je pense que c'est regrettable.
Baba Isaac Kalonji, vous êtes analyste indépendant basé en Bougima et Kassai Oriental. Comment vous analysez cette question des délimitations de frontières?
J'ai deux appréhensions d'abord. Ce n'est pas en 2014 qu'on peut borner les limites frontalières entre le Congo et le Rwanda. Même monnaie, même banque nationale, c'est de l'histoire, les vérités historiques sont têtues. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette opération, il y a une main noire. Parce que Kasumbalesa, entre Zambie et Congo, jamais un problème. J'ai moi-même été en Zambie plusieurs fois, je n'ai jamais trouvé un seul déplacement de bornes frontalières de la Zambie vers le Congo ou bien du Congo vers la Zambie. Ça c'est un. Deuxièmement, la frontière entre le Rwanda et le Congo n'est pas destinée aujourd'hui. Avant que le deuxième colonisateur allemand ne vienne, les Belges ont colonisé le Rwanda et il y avait une banque du Congo belge et du Rwanda Rwandi avec la même monnaie. Et l'histoire, ces faits sont têtus. Ce n'est pas à changer aujourd'hui parce qu'on est d'une tendance. Bon, troisième événement, c'est quoi? C'est que même quand il faut fixer les bornes artificielles, mais il y a les bornes naturelles. Une histoire comme le lac, on ne peut pas déplacer le lac. Donc quand il y a les bornes en dehors du lac...
Mais on peut du moins les délimiter.
Quand un lac est à la frontière, on ne peut pas le déplacer, ni par l'un, ni par l'autre, fixer les bornes imaginaires. Donc mon regret est le suivant. Ceux qui prétendent aller borner, s'ils ne jouent pas la carte de la main noire, c'est-à-dire la main qui se trouve derrière le rideau, qui agit, parce que hier, j'avais suivi aussi France Inter, qui disait que l'économie rwandaise est en difficulté pour la non-importation des minerais. Donc le Rwanda n'a pas de minerais, à ce que je sache, il n'y a que l'élevage. Mais le Rwanda était devenu exportateur principal des minerais du Congo. Donc, dès lors qu'on veut borner, dès lors qu'on veut fixer les limites, les multinationales opérant avec le Rwanda vont avoir un grand regret parce que maintenant les comptoirs à Kigali seront fermés et le Rwanda ne pourra pas servir de charnière entre les preneurs et les vendeurs. Donc, l'opération bornage n'est pas celle que vous voyez là-bas. Ce sont les intérêts qui motivent le bornage actuel entre le Rwanda et le Congo. Donc ils ne font pas cette démarche là-bas pour vous plaire, ce n'est pas pour aider le Congo, non. C'est pour peut-être mettre un terme à une situation, et en la voulant, on veut le contraire. Est-ce que maintenant, présentement là, les Uruchuru, Masiti, Irangongo, qui étaient hier occupés par le M23 et consorts, pensez-vous que la population de ces entités là est d'accord qu'on déplace les limites vers leur village? Que non. Mais qu'on ne trompe pas les gens, que ça ne soit pas une opération d'armes pour tout simplement
dire,
même plaire à un ami qui fait partie des multinationales, qui était content de la sortie frauduleuse des minerais.
Merci.
Mérite coltan, cobalt, uranium et consorts.
Merci.
Pour vendre à vil prix, parce que Rwanda n'est pas.
Merci.
Merci Baba Isaac. Il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Daniel Safou, Joachim Diagne n'en a-t-il pas raison quand il faut, quand il parle de dédramatiser? C'est une opération, n'est-ce pas une opération normale? Il faut connaître les véritables limites de son pays. D'ailleurs, si vous voyez, les 9 frontières de la RDC posent problème parce qu'elles ne sont pas toutes véritablement bien délimitées.
Non, c'est dangereux. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on a eu des problèmes, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui apparaît gros. C'est
mais il y a aussi l'Angola qui
j'en arrive. Il y a le problème arrive, de l'Angola. J'en arrive, c'est dangereux. On a connu ce qu'on appelle la commission Roger Lumba. On n'a jamais eu un rapport digne de soi. On n'a jamais eu un rapport. On a envoyé une commission, on a mis une commission en place qui a été, n'est-ce pas, conduite par Roger Lumba. On n'a jamais eu un rapport convaincant là-dessus. Mais où est le mal si nous avons des dirigeants qui, à un certain degré, ne font que céder? On en a l'expérience. C'est base de cette expérience que nous sommes animés de la paix.
N'est-ce pas un procès d'intention?
Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Combien de fois nous avons connu des problèmes dans ces pays? Oui, on a résolu le problème de la M23, on a résolu le problème des choses. Mais les vrais problèmes, pourquoi c'est les mains nous? Pourquoi nous n'agissons pas de manière anticipée? C'est ça le problème. Mais la question fondamentale, les besoins se posent à quel niveau? Quel est le besoin? Henri Bergson dit, les besoins rend l'homme ingénieux. Les besoins rend l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin, il va y avoir une ingéniosité. Moi, je vous pose le problème. Est-ce que les besoins, n'est-ce pas, les frontières, c'est nous les Congolais qui les sentons ou ce sont les Rwandais? Si c'est nous les Congolais, coup de chapeau, c'est un besoin national. Mais si ce sont les Rwandais, attention, devons faire très attention.
Joachim Diagne, il nous reste moins de 4 minutes.
Lorsque vous quittez Mbujima et vous allez vers Kabinda, là-bas, vous trouverez en route là des villages brûlés pour les petites frontières. Allez, ils sont partis, ils sont venus. Les lacs Mukamba. Qui est naturel, pourquoi les deux Kassai se battent, puisqu'il y a une, quand même une lac naturelle là-bas. Non, moi je pense qu'il faut sortir de là. Je l'ai dit ici, ce n'est pas le Congo qui a fait la frontière, ce sont les colonisateurs. J'apprends ici aussi que la commission Lumbala, il n'y a jamais eu de rapport, mais c'est grave pour un journaliste.
C'est pas un rapport convaincant.
Écoutez.
C'est pas un rapport convaincant.
Daniel Safou, calmez-vous. Joachim Diagne. Il reste très peu de temps.
Ce n'est pas parce que vous intervenez que vous allez avoir raison. J'ai accompagné la commission. Lorsqu'on arrive là, on disait que c'est la frontière. On a mis les GPRS. Les GPRS démontrent que parce que la frontière entre l'Angola, c'est le 7e parallèle. On constate qu'il y a des villages congolais qui étaient sur la 7e parallèle ou qui sont 9 km, 80 km au-delà des parallèles en plein territoire angolais. Vous allez faire quoi? Roger Lumba était là où il y avait la fameuse barrière. On a mis le GPRS à indiquer au-delà du 7e parallèle. Mais c'est tout à fait. Il ne faut pas ramener tout politisé, tout. Il y a des histoires scientifiques. Les vieilles cartes qu'on a. Vous pensez que lorsqu'on prend la carte de 1900, d'avant 1911, on ne va pas retrouver où est la frontière rwandaise? C'est une histoire qui doit venir par la tête des gens? Non. On doit pouvoir rester. Objectif et scientifique, ce n'est pas un problème de subjectivité,
de balkanisation.
Non, la frontière, on doit la déterminer entre tous les pays. Il y a eu des années, on n'a pas renouvelé les bornes. Maintenant, les bornes se sont cassées, les chasseurs ont cassé, les gens qui ont fait les sont cassés. Il faut les retrouver et les reconstruire pour que plus personne n'aille chez quelqu'un. C'est tout à fait, c'est toute une opération normale. Il n'y a rien de. J'apprends même, c'est grave, une erreur de l'histoire. On apprend que l'Allemagne était le deuxième colonisateur. Non, monsieur. L'Allemagne, c'était le premier colonisateur. C'est lorsque l'Allemagne a perdu la guerre qu'on lui a pris toutes ses colonies, qu'on a pris le Kassai-Luanda qu'on a donné à la Belgique.
Ouais, il nous reste moins de 2 minutes. Nous allons accorder la parole à Baba Isaac. Et je crois qu'on va terminer par là. Baba Isaac, allongez un mot en guise de conclusion.
Les amis, pour que les journalistes interviennent, prennent conscience. Parce que la presse est là pour éduquer, former, informer et même divertir. Nous ne pouvons pas jouer un rôle comme si nous étions politiciens en parlant derrière un problème qui concerne la nation, vous voulez présenter votre couleur. Non. C'est-à-dire que nous voulons que le pays, que tout le monde prenne conscience, que tout le monde comprenne que quand le pays est attaqué, c'est tout le monde qui est attaqué, même si des amis de l'Est sont victimes.
Merci Baba Isaac. Daniel Safou, un mot pour terminer.
Nous connaissons les intentionnalités rwandaises. Le Rwanda a un problème de terre. Mais lorsque le Rwanda pose un problème de frontière, l'intentionnalité c'est quoi? L'intentionnalité c'est quoi? Le Rwanda a toujours joué de manière machiavélique vis-à-vis de nos autorités qui récupèrent une partie des terres.
Merci Daniel.
Il y a des gens qui sont esclaves de Rwanda déjà dans leur esprit. Même lorsque on doit délimiter la frontière qui existe depuis longtemps, on a peur du Rwanda. C'est grave.
Le Rwanda qui a accompagné les pouvoirs.
Voilà. Merci cher confrère. C'en est fini pour la tribune de la presse de ce soir. Réalisation Kevin Kouté, technique Guy Manzango et Willem Lungamba, présentation Alain Rongmouchige et coordination et évidemment supervision Martin Sebujangwe. Bon week-end à tous. Au revoir.